Bonjour et bienvenue sur CNews, 90 minutes info, le débat dans un instant. On parlera évidemment de cette grande inquiétude qui a saisi tout le Royaume-Uni depuis l'annonce de la détérioration de la santé d'Elisabeth II. Un communiqué de Buckingham Palace qui est venu confirmer ces craintes. On en parle juste après le flash d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
Un juge d'instruction va enquêter sur les pratiques de maintien de l'ordre de l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallement. Une enquête avait été ouverte le 31 août dernier. Deux figures des Gilets jaunes accusent l'ex-préfet de Paris de les avoir mis en danger en les empêchant de manifester à Paris fin 2019. Face à des délinquants de plus en plus jeunes, 7 Français sur 10 se disent favorables à ce que l'excuse de minorité soit automatiquement levée pour les affaires les plus graves. Actuellement, en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Les enfants de moins de 13 ans, eux, ne peuvent pas être condamnés du tout. Au Canada, le dernier suspect des attaques au couteau contre une communauté autochtone est mort. Un décès intervenu peu de temps après son arrestation. Depuis dimanche, les policiers traquaient cet homme de 32 ans, soupçonné d'avoir tué 10 personnes avec son frère.
Merci beaucoup Adrien Spiteri. Je vous le disais il y a un instant, le Royaume-Uni est donc suspendu au communiqué de la couronne et des médecins de la reine Elisabeth II. Vous voyez cette image en direct, c'est celle de l'entrée du château de Balmoral en Écosse où la reine Elisabeth II se trouve actuellement. Et c'est vrai que depuis ce message diffusé en début d'après-midi sur l'inquiétude de ces médecins à propos de sa santé, eh bien les Britanniques vivent au rythme et sont suspendus à ce genre d'annonce. Rappelons qu'elle est sur place parce qu'elle a reçu il y a quelques jours à peine la nouvelle première ministre Liz Truss. Son état de santé, dit-on, s'est détérioré. On l'a dit très affaibli. Elle a même dû renoncer entre-temps à un rendez-vous de travail. Et ce genre de message du palais, évidemment, n'est jamais anodin. On va en parler aujourd'hui avec mes invités que je vous présente. Marc Menant est resté en notre compagnie. Merci d'être là, Marc. C'est une page de l'histoire qu'on va peut-être être amené à commenter dans les prochaines heures.
Mais quoi qu'il arrive, c'est une page de l'histoire.
De toute façon, c'est déjà un événement voilà. Significatif en soi. Merci, Jérémy Stubbs, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes britannique, comme votre nom semble bien l'indiquer, mais vous êtes journaliste à Causeur également. Merci pour votre présence, ainsi d'ailleurs que Ludovine de la Rochère. Merci d'être là tous les trois. Nous allons sans plus tarder peut-être tenter de joindre notre correspondante à Londres, Sarah Menaï, pour avoir un petit peu plus de précision sur ce qui se dit en ce moment outre-Manche. On sait que la famille est en train petit à petit d'arriver à son chevet, ce qui signifie, Sarah, que l'heure est grave en ce moment. Est-ce qu'on a Sarah Menaï au téléphone ? Alors, on a un petit problème de liaison téléphonique, donc on va la retrouver on va la récupérer dans un petit moment. Jérémy Stubbs, je vais commencer avec vous. Évidemment, on n'en est pas à la première alerte. Après tout, il s'agit quand même d'une monarque qui est âgée.
Est-ce que vous m'entendez ?
De 96 ans, ça y est, on a retrouvé Sarah Menaï. Oui, on vous entend à présent. Je vous laisse la parole.
Oui, pardon. Alors, je vous le disais, effectivement, l'inquiétude sur l'état de santé de la reine Elisabeth II grandit, effectivement, ici à Londres, minute après minute. On a appris qu'après les princes Charles et William, c'était au tour du prince Harry et de Meghan de se rendre donc au chevet de la reine à Balmoral, en Écosse. Ce que je peux vous dire ici, c'est que la BBC a interrompu tous ses programmes. Le correspondant royal de la BBC, Nicolas Witchell, a annoncé que le Royaume-Uni devait se préparer au pire. Donc oui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et puis, vous l'avez dit, de toute façon, ce n'est jamais anodin lorsque Buckingham Palace communique sur l'état de santé de la reine. Normalement, il ne communique pas jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que vraiment ce soit inévitable. Et là, effectivement, ce communiqué, il y a une heure maintenant, inquiète évidemment énormément les Britanniques. On attend d'en savoir plus. On est suspendu à chaque annonce, finalement, de Buckingham Palace.
Merci beaucoup Sarah, on reste en lien avec vous. On va sans doute vous joindre à nouveau dans le courant de cette émission. Je me tourne à nouveau vers vous Jeremy Stubbs. C'est vrai que ces apparitions publiques quand même s'étaient fait plus rares ces derniers temps. On avait vu qu'elle avait pris moins part aux festivités de son dernier jubilé que d'ordinaire. Donc, ce qui veut dire qu'on savait déjà que dans les fonctions officielles, les fonctions de représentation, elle était moins sur le devant de la scène. Bon, on pouvait le comprendre aussi à l'âge avancé qui est le sien désormais, mais ça suscitait déjà un petit motif d'inquiétude.
Oui, ce qui arrive aujourd'hui, et nous ne savons pas encore ce qui sera arrivé aujourd'hui, mais ce n'est pas si étonnant que cela. Les mois derniers, on nous ont un peu préparé à ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que si elle est restée à Balmoral, qui est son palais préféré, et si on a appelé tous les membres de la famille à son chevet, c'est qu'on craint le pire. Mmh. Et bon, tout en espérant que cela ne se passe pas de cette manière, mais oui. On peut craindre le pire, oui.
Le fait notamment d'avoir rappelé Harry et Meghan, dont on sait que les relations avec la famille royale n'étaient pas au beau fixe hein, depuis le scandale, et puis la déchéance de ces titres royaux, on peut imaginer voilà, qu'il y a une cohésion autour de la personnalité de la grand-mère, hein, parce que c'est leur grand-mère après tout à William et Harry, qui est quand même assez significative. Marc Menant, rappelons quand même quel est le pédigré, si vous me permettez ce terme, de cette femme, reine du Royaume-Uni, 14 États souverains, reine de 14 États souverains aujourd'hui, gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, chef du Commonwealth, ça n'est pas rien, c'est un personnage très puissant à l'échelle du monde et c'est ça qu'il faut bien garder en tête.
Elle a été, là, je dirais, presque la reine du globe, car là, son royaume n'a cessé de se rétrécir, mais quand elle monte sur le trône, l'Angleterre est encore dans la puissance de son empire. Certes, les Indes déjà ont été sacrifiées, mais n'oublions pas qu'il y avait cette image qui était colportée ici et là. Partout, le soleil se lève sous les auspices de l'Angleterre. C'est-à-dire que partout, il y avait un ancrage et elle représentait cet ancrage quand elle monte sur le trône en 1953. Et d'ailleurs, en 1952, que se passe-t-il? Elle est en voyage où? Elle est en voyage dans le sud de l'Afrique avec le prince Philippe et on la reçoit de façon... Là encore, on n'est pas dans le protocole pour le protocole. Elle représente plus que ça. Et quand elle est accueillie, eh bien, on ne lui présente pas les armes comme à un homme d'État. Il y a presque une forme de transcendance qui l'accompagne. Et ça, c'est très intéressant. C'est sans doute pour ça que même aujourd'hui, vous voyez, on fait des émissions spéciales parce que c'est la reine d'Angleterre et qu'elle a cette aura. N'oublions pas non plus ce qu'a dit Churchill. La première fois qu'il la voit, elle est toute adolescente, c'est au début de la guerre. Il dit, c'est incroyable, cette jeune fille, la puissance qu'elle représente. Elle est là, elle incarne déjà le pouvoir.
On rappelle qu'elle a 25 ans quand elle accède au trône à la mort de
son père. Elle a 25 ans, oui. Et là, ce que je vous évoque, c'est au début de la guerre, donc elle a 13 ans, 14 ans, elle est née en 1926.
Mmh. Alors, Ludovine de la Rochère, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est un chef d'État, Elisabeth II. Elle a connu quand même, sous son règne, 15 premiers ministres, la dernière en date qu'elle a reçue avant-hier, Liz Truss. C'est bon, encore une fois, ça c'est une page de l'histoire, parce que c'est une femme qui porte en plus, en outre, le même prénom qu'elle. Donc c'est une femme qui a vu, qui a traversé l'histoire. On le voit bien raconté à travers la série qui lui est consacrée, qui est consacrée à la maison Windsor en général, The Crown, qui a été un carton d'audience. C'est donc, il y a une légende autour de la personne et du pan d'histoire qu'elle représente, qui va bien au-delà des fonctions réelles qu'elle exerce.
Absolument, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions dans ce qui est devenu au fil du temps une légende. Il y a bien entendu d'abord la fonction qu'elle occupe, et sachant qu'elle n'est pas seulement la reine d'un royaume, enfin d'un État, mais tout un ensemble d'États, on l'a dit, qui se trouvent tout autour de la planète, qui sont très différents les uns des autres. Il y a eu parfois des difficultés, des contestations, et puis finalement, elle a su... de manière assez extraordinaire, plutôt par sa personnalité que par le pouvoir concret qu'elle pouvait exercer, donc plutôt par les symboles, en fait, elle a pu garder une certaine cohérence au Commonwealth, et puis la longévité. Alors, elle a vécu aussi des grandes difficultés familiales.
On va y revenir, on a vraiment le temps d'y revenir dans le détail.
Voilà, des épisodes très difficiles, mais la manière dont elle a toujours été gardée une attitude très digne, très cohérente, et dans la durée, et quelles qu'aient pu être les épreuves, dont on se doutait bien qu'elles étaient parfois terribles, avec certainement une très grande pudeur chez cette dame, qui est vraiment une femme de devoir, qui ne s'est jamais révoltée à aucun moment. Quand elle est devenue la reine, elle l'a acceptée pleinement, et elle a assumé ses fonctions dans toute sa dimension. Le prince Philippe, lui, a dû se plier à tout ce que cela pouvait représenter alors qu'il était encore assez jeune. Et donc même du point de vue de son couple, ça n'était pas évident, de l'éducation des enfants et les crises qui ont suivi. Mais cette longévité amplifie encore davantage son aura et la légende que cela a créée au fil du temps.
Jeremy Stubbs, 70 ans, plus de 70 ans de règne pour Elisabeth II. Ce qui veut dire que la plupart aujourd'hui des Britanniques, qu'ils soient monarchistes ou pas d'ailleurs, qu'ils soient attachés à cette manière de fonctionner ou de diriger, ont grandi, ont vécu sous son règne. Donc de toute façon, ça parle à chacun d'entre eux et même à chacun d'entre nous parce qu'elle a eu une aura qui avait largement dépassé les frontières même du Commonwealth. Ça veut dire que, sans aller jusqu'à parler de figure maternelle, parce qu'on ne va pas dire qu'Elisabeth II représente, c'est pas quelqu'un sur qui on tape sur l'épaule, Elisabeth II. Hein, elle a toujours gardé une certaine distance aussi.
Non, mais il y a le maternel du côté vierge.
Ouais,
c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus, un attachement. Absolument. À quelqu'un qui nous rassure, quelqu'un qui dégage de la sérénité et une forme d'amour.
Est-ce que ça s'est ancré en chacun des Britanniques ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il y a toujours quelques rebelles républicains.
Ne me regardez pas comme ça.
C'était gentil. Mais non, c'est, et au contraire, c'est une figure maternelle, parce qu'elle était déjà mère au moment où elle a été sacrée reine. Elle a eu encore des enfants depuis. Je peux parler pour moi-même que ma propre mère s'identifiait en partie avec la reine. Et bon, aujourd'hui, c'est plus qu'une mère, c'est plutôt une grand-mère, voire une arrière-grand-mère. Mais cette dimension est extrêmement importante. Et comme l'a dit Marc Menant, c'est sa parole qui est pleine de sens. Quand elle a fait ce discours pour rassurer tout le monde au pire moment de la pandémie, ça a été apprécié. Mais autour de la planète, pratiquement.
Ça veut dire qu'elle est quand même là pour les moments importants. Alors, parlons de moments importants. Oui, vous rajoutez bien
sûr. Oui, non, c'est là. Simplement, c'est rappeler le discours, son premier discours, au début de la guerre de 1940. Oui. C'est une adolescente. Elle est là devant le micro de la BBC. Certes, ça a été écrit, mais elle est poignante. Vous avez l'impression que cette femme, déjà, alors qu'elle est dans la croissance, eh bien, néanmoins, elle prend le pouvoir, son père est le roi, mais quand elle s'adresse au peuple, elle se sent directement concernée. Ce n'est pas une comédie de gamine.
Oui, et puis elle prend aussi
c'est un sens des responsabilités.
Elle prend sa part de responsabilité dans cette guerre, puisqu'elle va sur le front aller. Hein,
oui, oui, puis elle devient infirmière, elle prend des risques.
Elle donne de sa personne, absolument.
Bien sûr,
donc
bien
là,
sûr.
Elle
apprend même à conduire des camions pour pouvoir faire en sorte que les blessés soient transférés.
Est-ce que finalement, elle n'a pas réussi à transcender ce rôle qui est le sien? Parce qu'après tout, elle est le chef de l'Église anglicaine. C'est-à-dire qu'après Dieu, c'est elle. Hein, c'est vraiment le représentant de Dieu sur Terre pour les anglicans.
Alors, elle n'est pas la représentante de Dieu sur Terre. Elle est effectivement la chef de l'Église anglicane. Mais c'est bien différent de ce que la France a connu avec la monarchie, où on employait ce terme de représentant de Dieu sur Terre. Sauf erreur de ma part, ça n'est pas ce qu'on dit de la reine d'Angleterre.
On verra si Jeremy Stubbs vous corrige ensuite.
Il me semble que
dans The Crown, c'est un petit peu décrit de la sorte, quand même.
Bien sûr, il y a eu un sacre qui a été un événement très important. Le symbole est très important, mais il me semble que la nature spirituelle de son pouvoir est moins mise en avant que ça n'était le cas, par exemple, sous la monarchie française. Mais quoi qu'il arrive, c'est une femme qui a tenu le cap, qui tient le cap. Et dans une époque en plus, dans une époque comme toute époque, qui a traversé la Grande-Bretagne, l'Europe, le monde, des crises de toute nature, gravissimes, successives, et aujourd'hui avec un monde multipolaire et difficile à décrypter, à comprendre, et l'avenir paraît incertain à beaucoup, et là-dessus, elle a été extraordinaire, avec toujours un calme, sans changer d'attitude, c'est l'antithèse de la versatilité, des changements d'avis, des changements d'opinion. Alors il faut dire qu'il lui est bien demandé aussi de ne surtout pas rentrer dans les sujets politiques et de se tenir à l'écart. C'est mm-hmm. tout à fait particulier.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que bon, elle n'est pas non plus, il n'y a pas un lien direct avec, c'est vrai, ces qualités et ces pouvoirs qu'on prêtait au roi de France qui avait le pouvoir de guérir aussi.
Mais les Anglais aussi.
Oui.
Les deux royautés, les rois étaient thaumaturges. Ils levaient les écrouelles. Et c'était plusieurs fois par an pour certains.
Allez-y.
Voilà, oui, je rentre dans toutes ces questions dans un long article dans Causeur qui vient de paraître hier. J'espère que ce n'est pas cet article qui a porté la poisse à la reine.
Ça, c'est Murphy's Law, hein. C'est un petit peu...
Sinon, j'aurais mal. Mais cette question de la comparaison entre les deux monarchies est très intéressante. Et on peut remonter très loin, même des millénaires, pour faire des comparaisons à cet égard. En fait, aujourd'hui... La monarchie britannique est une monarchie moderne, donc on ne va pas trop mettre en avant le pouvoir de Dieu sur terre, etc., etc. Mais, tout à fait d'accord, roi thaumaturge, les rois français, les rois anglais, les rois thaumaturges qui avaient le pouvoir de guérir. Aujourd'hui, quelle est la fonction presque principale de la reine? Ce sont les œuvres charitables. On a calculé qu'elle a sans doute soulevé presque 2 milliards de livres de contributions au cours de sa vie. Elle est la mécène d'ONG sans nombre.
600 associations qui sont, dont elle est la marraine. Ouais.
Donc on se tourne vers elle justement pour apporter, ce n'est pas exactement un miracle au sens purement médical du terme, mais pour nous apporter une sorte de secours.
Good omen, comme on dit.
Voilà.
Plus
que ça, c'est elle qui est présente et par sa présence même change tout autour d'elle. On a beaucoup d'anecdotes à cet égard.
Alors, superstition un peu comme ça.
Oui. Marc, il y a quand même une information importante parce que c'est là aussi vous allez peut-être nous confirmer. Non, mais c'est juste que on donne les informations à mesure qu'elles nous parviennent. Notre correspondante à Londres nous indique que la BBC, et ça vous allez commenter bien sûr, a interrompu tous ses programmes. Le présentateur porte une veste et une cravate noire et on attend des nouvelles. Alors, effectivement, Sarah Menaï est avec nous. Elle va peut-être nous apporter des précisions là-dessus. Merci Sarah de vous être connectée pour nous parler de cette interruption de programme. C'est très très important ça.
Oui, c'est très important parce que c'est le déclenchement sûrement d'un plan, le plan London Bridge qui doit être déclaré, si vous voulez, au moment du décès de la reine. Donc là, évidemment, on n'a pas de nouvelles, mais en tout cas, oui, la BBC... Donc la télévision publique ici au Royaume-Uni a interrompu tous ses programmes. La BBC est désormais accessible en mondovision, donc à travers toute la planète. Et effectivement, le présentateur, et ce n'est pas à son habitude, c'est pour ça que c'est important de le souligner, il porte une veste noire, une cravate noire, il a l'air très grave, comme tout finalement les correspondants aussi royaux. Le correspondant royal de la BBC, je vous en parlais il y a quelques minutes, Nicolas Vichel, qui a annoncé que le Royaume-Uni devait se préparer au pire. L'air est grave sur la télévision, en tout cas nationale et publique britannique. Et c'est vrai que minute après minute, finalement, l'état de santé, l'inquiétude autour de cet état de santé de la reine vraiment grandit. Quoi. La BBC qui interrompt tous ses programmes, c'est quelque chose de très inhabituel. Et il l'avait fait au moment du décès de Diana, il l'avait fait au moment du décès du prince Philippe plus récemment, donc l'an dernier, l'époux d'Elisabeth II. La BBC avait interrompu déjà tous ses programmes. Et là, ils ont effectivement interrompu leurs programmes classiques et ils sont accessibles en mondovision. Avec un air, je vous l'ai dit, effectivement, très grave.
Merci beaucoup, Sarah. On vous retrouve tout à l'heure. Marc, ce n'est pas de nature à nous rassurer.
Non, mais là, ça semble indubitable. C'est-à-dire que vous êtes en Angleterre, un monde où on a le sens de la célébration, un monde où le protocole joue un rôle déterminant. Vous pensez bien que la BBC, chaîne d'État, ne prend ses dispositions que parce qu'ils ont une information. On peut imaginer, d'ailleurs, je ne me souviens plus, j'ai été saisi comme tout à chacun, j'ai toute une documentation à la maison sur la manière dont les deuils sont annoncés en Angleterre.
Elle est là. Mais,
d'accord. Ouais. Eh bien, si vous relisez, vous apercevez qu'il y a un temps de latence et la mise en place. Et là, ça correspond tout à fait.
Il y a un code, je vais le dérouler maintenant en quelques secondes. Il y a un code de Buckingham Palace qui est envoyé à Downing Street.
Voilà.
Et qui, vous le connaissez par cœur tout ça, Jeremy Stubbs, je ne vous l'apprends pas. London Bridge is burning.
Oui.
Donc, le pont de Londres, c'est le nom de code, est en feu. C'est le nom de code pour dire la reine est morte. Mais ça n'est pas annoncé au grand public.
Non.
C'est-à-dire qu'on le donne à Downing Street. Le Premier ministre, ou la Première ministre maintenant en l'occurrence, fait passer l'information à son Foreign Affairs, qu'il envoie dans les capitales des pays du Commonwealth et des États partenaires, alliés, etc. Et évidemment, ensuite, les annonces officielles se font. Et la BBC, effectivement... lorsque le deuil, enfin le décès sera officiel, diffusera une musique spéciale une seule fois, une musique spéciale dédiée à ça, à sa mort, une seule fois, et qui préfigurera, qui sera une préannonce de sa mort. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà lues ou sur lesquelles vous avez déjà enquêté, j'imagine. Donc ça montre à quel point c'est millimétré et tout réglé au cordeau, cette histoire.
Oui, oui, tout à fait. Tout ce que fait Buckingham Palace est toujours calculé au millimètre près. Il y a des spécialistes d'étiquette qui règlent toutes ces questions, même quand il y a des anomalies. Ils changent tout. Comme vous le savez déjà, quand la princesse Diana est décédée, comment faire pour ses funérailles? Eh bien, on les a basés sur le modèle qu'on avait déjà préparé pour la reine-mère. Donc, tout est calculé d'avance. Et puis, il arrivera un moment où on saura qui est-ce qui lui succédera à la reine.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est une autre grande question.
Juste pour commenter un peu les images qui nous parviennent, si vous nous rejoignez en direct, ce que vous voyez là, ce sont des images du palais de Buckingham, où il y a quand même une certaine effervescence. Alors, certes, c'est un lieu de passage très touristique toute l'année, mais là, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui défilent devant, un peu par curiosité, peut-être déjà parce qu'ils ont besoin aussi de se rassurer ou de se recueillir pour certains en craignant le pire. Regardez ce bâtiment donc, où elle n'est pas. D'ailleurs, le drapeau n'est pas érigé parce que ce qui veut dire que la reine n'est pas sur place et pour cause, elle est à Balmoral. Une autre invitée, Katia Alibert, rédactrice en chef adjointe de Gala. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous avez pris comme nous connaissance des dernières informations, à savoir que la BBC a interrompu ses programmes. Il y a eu ce communiqué très officiel de Buckingham Palace il y a une heure ou deux maintenant. Vous aussi, vous vous dites, ça sent pas très bon tout ça?
Bah, disons que la situation est très très sérieuse, sachant que oui, il y a surtout que ses enfants sont à son chevet, que la plupart de ses enfants sont arrivés en hélicoptère, que son petit-fils William est à son chevet, que Harry et Meghan sont arrivés. Donc évidemment, on peut dire que la situation est très sérieuse à l'heure actuelle.
Oui. Alors son état de santé, revenons-y. Elle avait déjà été hospitalisée, la reine, il y a un peu plus d'un an, sans trop de motifs de gravité à l'époque. Mais là, on sent bien que, à la fois les communiqués, la présence des enfants, le fait que...
Surtout ce que vous venez de décrire sur la BBC.
Communique la BBC. Oui.
C'est ça le plus inquiétant.
Vous pensez que peut-être on se dirige vers une annonce imminente
La reine est suivie par son médecin personnel, même à Balmoral, donc elle est suivie en permanence. Donc si Buckingham fait un communiqué, c'est comme je vous disais auparavant, c'est que la situation est très sérieuse. D'habitude, Buckingham communique un peu plus tard et on sait que la reine avait plutôt une santé, elle était toujours plutôt en bonne santé. C'est quelqu'un qui avait plutôt l'habitude de se soigner par l'homéopathie. C'est quelqu'un qui a toujours été très en forme et qui effectivement était allé très peu à l'hôpital, à accoucher chez elle. Donc là, effectivement, si Buckingham communique, si ses enfants sont à son chevet, si son petit-fils, l'héritier de la couronne, est là-bas, je pense que la situation est très sérieuse. Et effectivement, la reine est une femme de 96 ans qui a perdu son mari il y a un an, qui, voilà, c'est...
Oui. Katia Alibert, justement, vous suivez bien sûr toute l'actualité de la famille royale d'Angleterre, des Windsor, à la rédaction de Gala. On l'a dit très affectée par la mort du prince Philippe il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a quelques années. Il y a eu d'autres histoires aussi, à la fois Harry et Meghan, bien sûr, ça lui a sans doute donné un coup au moral, mais il y a eu encore plus récemment l'affaire Andrew, qui a été une marque noire aussi pour la famille.
Bah oui, Andrew, qu'elle a longtemps considéré comme son fils préféré. C'est vrai que tous ces scandales qui ont accompagné sa femme reine autour de sa famille l'ont certainement diminué et fatigué. Elle a toujours dit qu'elle avait le sens du devoir chevillé au corps et qu'elle resterait jusqu'au bout la reine et qu'elle serait là pour ses sujets et qu'elle aurait son sens du devoir. Mais c'est vrai que, et c'est surtout la mort de son époux qui était quand même sa colonne vertébrale, son rock, et c'est vrai qu'aux obsèques de son épouse, c'était la première fois qu'on voyait la reine pleurer. Et elle a pleuré à la mort de Churchill, mais on ne l'avait pas vue, c'était de dos, dans un aimant privé, donc on n'avait jamais vu la reine dans un état pareil.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints en direct sur l'antenne. On va marquer une très courte pause et puis on revient pour développer cette information principale. L'interruption du programme de la BBC, alors qu'un communiqué annonçait déjà une détérioration de la santé, de l'état de santé d'Elisabeth II, ce qui veut dire que l'inquiétude est à son paroxysme en Grande-Bretagne. On y sera, bien sûr, en direct avec nos envoyés spéciaux et puis on fera réagir les journalistes qui suivent l'actualité de la couronne, ainsi d'ailleurs que nos invités en plateau, Jeremy Stubbs, Ludovine de la Rochère et Marc Menant qui est resté. À tout à l'heure.
Non.
16h sur CNews. Dans un instant, nous continuerons d'évoquer ce qui se passe outre-Manche, puisque la reine d'Angleterre, très malade, une grande inquiétude subsiste évidemment avec la BBC qui a interrompu ses programmes, ce qui suscite à nouveau un peu plus d'inquiétude autour de son état de santé réel. Mais avant cela, le rappel des autres titres de l'actualité, à commencer par cette annonce de la Banque Centrale Européenne qui va rehausser ses taux à 0,75%, ce qui aura évidemment d'importantes conséquences sur le plan économique, l'objectif étant de provoquer un ralentissement de l'inflation. À retenir aussi Emmanuel Macron qui inaugure ce jeudi le Conseil national de la refondation. Il a annoncé le lancement d'une grande consultation nationale en ligne à compter de la semaine prochaine. Mais vous le savez, l'événement a été boycotté par un certain nombre d'organisations syndicales et de formations politiques également. Sur place, à Marcoussis, il y avait Régine Delfour pour le résumé.
Le chef de l'État, dans un premier temps, a réaffirmé sa volonté de bâtir du consensus sur la situation de la France, mais aussi sur son avenir, notamment sur deux enjeux, la transition démographique, mais aussi climatique. Pour Emmanuel Macron, ce Conseil national de refondation est une nouvelle manière de débattre. Il faut, selon ses mots, passer à l'action et mettre les forces vives sur le terrain. 5 thèmes ont été retenus pour ces débats, l'école, la santé, le plein emploi, la transition climatique et le bien vieillir, des débats qui se sont tenus à huis clos, un choix que le chef de l'État a justifié par le besoin d'installer une confiance. Alors le chef de l'État a par ailleurs annoncé une grande consultation des citoyens sur Internet. L'objectif est de remettre les Français au cœur du débat. Il n'a pas non plus exclu l'organisation d'un référendum.
Et puis à Nice, le policier, auteur d'un tir mortel hier, est en garde à vue. Depuis hier soir d'ailleurs, il est entendu par l'IGPN. Pour rappel, le conducteur du véhicule signalé volé à ce moment-là, zigzagué sur une voie rapide, n'a pas voulu s'arrêter. L'agent a alors fait usage de son arme. Il y a donc deux enquêtes à ce stade qui sont ouvertes, l'une administrative, l'autre judiciaire, mais qui sont toutes les deux chapeautées par l'IGPN, la police des polices. Voilà pour l'essentiel, ce qu'il fallait retenir, mais évidemment nous sommes suspendus à ce qui se passe à Balmoral, précisément, en ce moment, en Écosse, où toute la famille royale est, ou presque, est au chevet d'Elisabeth II, puisqu'il y a eu ce communiqué très inquiétant, très concernant, il y a un peu plus de 2 heures maintenant, nous indiquant que son état de santé était préoccupant, c'est le terme qu'ont employé les médecins de la reine. Et puis, entre-temps, il y a eu quand même cette évolution, c'est-à-dire qu'on a appris, il y a quelques minutes à peine, que la BBC avait interrompu ses programmes, ce qui est évidemment significatif. Je ne sais pas si on peut joindre à nouveau Sarah Menahi, tandis que là, l'image que vous apercevez, ce n'est pas évidemment celle de Balmoral, mais celle de Buckingham Palace à Londres, où sans doute les Anglais ont eu vent aussi de cette nouvelle. Bonjour Sarah, j'imagine que vous écoutez les médias, que vous êtes un peu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit là, dans cette entre deux, on a l'impression qu'on est dans un temps un peu suspendu autour de cette santé.
Rebonjour. Oui, effectivement, comme vous le dites, le temps est un petit peu suspendu ici à Londres parce que tout le monde se demande, finalement, tout le monde est suspendu aux attentes de Buckingham, aux annonces plutôt de Buckingham Palace. On veut savoir effectivement ce qui se passe. Pour l'instant, c'est un peu le statu quo. C'est vrai que les dernières informations, c'est que la BBC a interrompu ses programmes, ce qui n'est pas anodin. La BBC qui est passée en Mondovision, d'ailleurs, disponible partout autour du globe. Et donc ça non plus, ce n'est pas anodin. Ce qu'on sait, c'est que voilà, les correspondants royaux, en tout cas des médias britanniques ici, ont l'air très graves. Ce qui n'est pas anodin non plus.
On a des petits problèmes de communication téléphonique. On essaiera de joindre Sarah un petit peu plus tard. Voilà, motif d'inquiétude. Donc, on le disait, Marc, la BBC n'interrompt jamais ses programmes, sauf on imagine en temps de guerre. Enfin, je veux dire, vous avez
ce souvenir. Non. Là, on est dans une gravité. Ouais. Et moi, je pense qu'on ne peut plus avoir malheureusement le moindre doute.
Ce n'est qu'une question d'heure, voire de minutes maintenant.
Non, mais c'est une question d'annonce. Je pense que les intimes sont confrontés à la douleur, d'ores et déjà. Sinon, jamais. On n'est pas avec une chaîne privée qui oserait le risque d'un scoop nauséeux. Là, on est avec une chaîne officielle et la BBC qui est une référence. Je ne vois vraiment pas comment il faut qu'ils aient l'information. Tout à l'heure, vous expliquiez comment le protocole se déroule, le fameux code.
On va y revenir.
Et donc, ces informations qui sont une sorte de rumeur des initiés, et à partir de là, se mettent en place ce qui ensuite aboutit à l'information officielle.
Ludovine de la Rochère, pour votre sentiment, là, alors qu'il est, il est 16h05, ça fait 2 heures que l'information bruisse, on se dirige peut-être vers une annonce imminente.
Alors, ce qui est vrai, c'est que même quelqu'un qui est très, très âgé et très malade, et elle n'était pas très malade ces derniers jours, encore qu'on ne savait pas précisément, mais finalement, on est toujours surpris. On ne s'attend jamais véritablement à ce souffle qui un jour s'éteint, qui à un moment donné s'éteint. Et puis, elle a toujours été là, d'une certaine manière, la reine, pour nos contemporains et en particulier, bien sûr, pour les Anglais. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que pour une personnalité aussi importante, exerçant une fonction absolument capitale et puis très, très chargée symboliquement, il y a nécessairement un protocole. Ils savent d'abord très bien que ce sera une émotion le jour où elle partira ou l'instant où elle partira, où ce sera annoncé, une émotion immense, un événement historique, un événement politique aussi. Et il est évident, compte tenu encore une fois de sa fonction, que les services de Buckingham sont d'abord tenus de prévenir les dirigeants de tous les États du Commonwealth, de tous ces pays, bien entendu Downing Street, etc. Donc il y a forcément ce temps de latence que vous évoquiez pour des raisons de protocole aussi et puis de préparatifs. Oui. Alors on imagine bien en même temps que derrière, ce doit être derrière le rideau très chaotique, très compliqué, très ajouté, très agité et avec pour chacun beaucoup d'émotions.
Oui. Donc parce qu'il ne peut pas y avoir de vacances du pouvoir. En fait, c'est Charles qui prendra la main directement derrière, n'est-ce pas, Jeremy Stubbs? Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Causeur.
Oui, oui, ce sera probablement Charles, à moins que, par surprise, il annonce une abdication en faveur de son propre fils. En même temps, il attend depuis longtemps lui-même d'être roi.
Il a 72 ou 73 ans, Charles.
73 ans, il est né en 48.
On calcule. On peut dire qu'il a suivi une formation extrêmement longue et complexe.
Oui, c'est le stagiaire le plus long.
Oui, c'est ça.
Si on peut se résumer ça.
Bon, il a été bien payé pour son stage, mais la question aujourd'hui, c'est quelle différence ça fera que de changer de monarque. Et à mon avis, ça fera beaucoup. Une différence.
Alors, il y en a beaucoup. Et puis, on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi des implications pour tout ce qui est poste, impression de billets, les billets, les devises des pays du Commonwealth qui sont à l'effigie de la reine devront être remplacées. On parlait de protocole. Ça aussi, c'est très, très réglementé. Et il y a c'est minuté. Il faut qu'en quelques jours, parce que c'est quand même, ça implique le quotidien de millions d'habitants à travers le monde, il faut qu'en quelques jours, on puisse procéder à ce renouvellement entier. La devise qui changera aussi. Bon, là, on s'avance un petit peu, mais puisque vous parliez des changements que ça implique, ils sont protéiforme quand même. Hein.
Oui, pour avoir, alors toute chose égale par ailleurs, c'est d'un domaine qui est différent, mais moi j'ai suivi et je me suis occupée en particulier pour ce qui était de la France, j'étais au service de la conférence des évêques de France au moment de la mort de Jean-Paul II. Et donc ce sont des événements qui sont préparés très longtemps à l'avance, qui sont très réglementés. Quand l'annonce survient, il ne faut pas qu'il y ait de fuite pendant un certain délai. Et ça aujourd'hui, vous imaginez bien que c'est très 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 difficile d'en avoir la maîtrise. Et puis après, il y a tout un ensemble de bouleversements très concrets et très pratiques. Exactement, vous évoquiez les timbres, on n'y pense pas forcément. Mais il y a aussi toute la préparation des funérailles. Et ça, c'est un travail extrêmement important, très intense, qui implique beaucoup de personnes. Et les préparatifs de la retransmission dans le monde entier. Les mariages, le mariage de
Elisabeth II a été le premier mariage télévisé.
Il y avait par ailleurs, je crois, un tiers de la planète, enfin 2 milliards de personnes qui suivaient le mariage.
Vous savez combien on estime le nombre de téléspectateurs qui sans doute assisteraient aux funérailles d'Elisabeth II?
3 milliards.
C'est ça. Mais ce sont les estimations.
Et donc tout cela aussi, c'est en fait dans le monde entier, des secteurs entiers ou des professions qui sont sur le qui-vive et qui le sont probablement déjà. Il y a aussi tout cet aspect.
Et de façon bassement mercantile, imaginez tous ceux qui vont fabriquer des effigies de la reine. Les goodies,
c'est
il faut faire ça pour le jour des funérailles.
Il y a eu le jubilé où il y a eu beaucoup de...
Oui, mais là, ça sera...
Mais là, il y en aura d'autres avec la date, effectivement, des funérailles d'État.
J'espère et je pense que l'essentiel est bien sûr le sens de l'événement et l'avenir de la monarchie britannique, enfin l'évolution nécessaire liée à la différence des personnalités entre Elisabeth II et vraisemblablement...
Jeremy Stubbs, puisque vous êtes quand même britannique, en plus d'être un de nos journalistes de renom, de valeur, ici, vous traversez la Manche pour nous rejoindre, mais enfin bon, vous restez un britannique de cœur, j'imagine, pur jus. C'est très codifié, les funérailles. C'est-à-dire que là, vous disiez tout à l'heure à la Balmoral, qui est sa résidence préférée. D'une certaine manière, ça ferait sens pour elle que de s'éteindre là-bas aussi. Enfin, je veux dire, si l'histoire fait bien les choses, ça aurait sens aussi pour elle, et pour la famille. Je crois qu'il y a un train qui doit la transporter, puisqu'elle est en Écosse. Après, il y a une dimension politique très importante, vous allez peut-être me corriger là-dessus, qui la transporte jusqu'en Angleterre et qui va s'arrêter partout,
fait.
Je crois.
Tout à fait. Bon, on a parlé des rois thaumaturges. Maintenant, ce sont les deux corps du roi, son corps en quelque sorte mortel, est mort à Balmoral, mais il faut aussi qu'il y ait une sorte de mort symbolique à Londres, au cœur du pouvoir. En même temps, il faut se rappeler aussi qu'elle est reine d'Angleterre et reine d'Écosse. Elle est reine des deux pays, même si les deux pays...
Même s'il y a des velléités de séparation.
Si l'Écosse était indépendante, elle serait toujours reine. Bon, je ne sais pas si nous pouvons parler au présent, mais le monarque anglais est aussi monarque de l'Écosse, quoi qu'il arrive.
Oui.
Et donc, on voit quand même que le centre du pouvoir reste à Londres. Et c'est là qu'il faut, bien sûr, toutes les cérémonies, même si son cœur est ailleurs. Elle n'a jamais vraiment aimé Buckingham Palace. Grand, trop froid pour cet hiver.
Ce train, Marc, il va s'arrêter dans toutes les gares anglaises, une fois qu'il aura franchi la frontière physique entre l'Écosse et l'Angleterre, il va s'arrêter dans chaque gare, les portes vont s'ouvrir du wagon funéraire, et les sujets pourront, ceux qui voudront venir se recueillir, quelques instants apercevoir de loin la dépouille. Tout ça est très protocolaire. Saviez-vous, je pense que vous le saviez, qu'elle a elle-même réglé pratiquement au millimètre l'organisation de ses propres obsèques. Je crois qu'il y avait même des répétitions générales qui étaient organisées.
Alors, elle n'y gagne pas ce qu'avait osé Charles Quint. Charles Quint avait carrément organisé ses funérailles et il a demandé à ce qu'elles se déroulent devant lui. Il a assisté à ses propres funérailles. Voilà, ça montre aussi que ces personnages qui prennent une telle place dans l'histoire ne conçoivent pas l'existence comme nous.
Ils sont presque désincarnés.
Oui, mais c'est ça qui est palpitant quand on regarde Elisabeth II. C'est à la fois une femme qui nous touche par une forme de tendresse. Quand on visite sa jeunesse, elle est là avec sa sœur Margaret, qui a 4 ans de moins qu'elle. Elles sont en connivence sous le règne de leur gouvernante Marion, qui tente de les bichonner, de leur instiller un tout petit peu d'amour dont elles sont privées. Et pour arriver à tenir dans cet univers, bien que leur père, George, ait quand même une attitude beaucoup plus paternelle qu'elle n'en aura de maternelle vis-à-vis de ses propres enfants. Mais il est accaparé par la tâche. Et alors on voit ces deux gamines qui s'inventent des mondes et la passion pour les chiens et les chevaux, naît à cette époque. Et il y a des scènes extraordinaires quand on lit les biographies de la reine Elisabeth où elle attelle sa petite sœur Margaret une petite charrette, et elle est là, elle la fouette pour singer, je dirais, un carrosse. C'est-à-dire qu'elle se projette déjà dans des situations. Mais ça montre aussi que malheureusement, trop souvent, elles sont privées de ce que nous avons tous, en majorité. Car certains enfants ne connaissent pas toujours cet amour de la famille, mais désincarnés. Il faut s'inventer un monde. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle ait réussi à franchir toutes les étapes de son existence en ayant une attitude à la fois de froideur, mais en incarnant une sorte de rayonnement de générosité. Et ça, c'est ça qui est fascinant chez cette femme. Et n'oublions pas, on aura le temps de l'évoquer, mais c'est quand même cette connivence incroyable avec le prince Philippe. Sans le prince Philippe, je pense qu'elle n'aurait jamais pu, malgré ses qualités initiales, elle n'aurait jamais pu se déployer ainsi pendant 70 ans. Cet homme qui, lorsque le destin se faisait vachard, venait la récupérer, lui donner l'énergie nécessaire. Et puis dans les moments douloureux du protocole, qui venait, vous savez, l'officier de marine, avec cette petite plaisanterie grivoise qui faisait qu'on avait le visage de la reine qui s'éclairait, qui riait, même pouffait, alors que les autres étaient dans la stature du théâtre du protocole.
C'est vrai que ces deux-là, c'était quand même le choc des
contrastes. C'est extraordinaire.
Lui qui n'a jamais d'ailleurs eu de titre royaux, enfin, il a été prince consort, mais jamais roi. Ça a été changé, ça d'ailleurs. Hein. Camilla, si elle accède, Charles accède au pouvoir, deviendra reine de plein exercice et non. Princesse consort, c'est quand même une grosse évolution.
Oui, et condamnée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, condamnée à être derrière. Et il disait, Jérémy pourrait me corriger légèrement, il disait, je ne peux même pas être le père de mes enfants.
La reine Elisabeth, elle a quand même, avec ses sujets, enfin, j'aime pas trop ce terme, nous qui sommes républicains, c'est toujours un peu compliqué.
Faites un effort, rappelez-vous.
avec les Britanniques, on va dire, un lien assez particulier. Est-ce qu'il lui pardonnait tout ce qui s'est passé? On se souvient quand même de cette fameuse année 1992. Ça vous évoque à tous quelque chose?
Bien sûr.
L'anus,
le château qui brûle.
Il lui est tout arrivé cette année-là. Ouais, ouais. Et malgré tout, comme vous le disiez, elle a tenu le cap, elle a tenu dans la tempête. Ça vous parle évidemment cette année, Ludovine de la Rochère.
Oui, bien entendu. Et puis il faudrait rappeler aussi 97, la mort de Lady Di.
La mort de Lady Di.
Un 31 août. Et il y a eu une période, il y a eu des vagues de reproches faites à la reine sur sa supposée dureté à l'égard de Lady Di. Il y a eu des vagues et des moments, forcément, de reproches. Alors ça n'a jamais été jusqu'à la contestation. Mais néanmoins, il y a eu à surmonter pour elle de vrais, dans les relations avec le peuple britannique, de vrais efforts à faire pour être comprise, entendue et tout. Mais elle a aussi, le temps passant, le temps guérit aussi bien des blessures. Et je pense que dans cette relation un peu extraordinaire qu'on peut constater aujourd'hui, le temps a fait son œuvre aussi.
Oui.
Et puis elle a une... évidemment, elle a inspiré confiance, elle a une crédibilité immense. Et quand on voit l'instabilité politique, par ailleurs, pour tous ceux qui sont des personnalités publiques en charge de nos pays, là, elle est exactement à l'inverse de ce que nous connaissons, avec des changements de dirigeants permanents, constants, etc. Donc,
alors justement,
c'est la boussole et le repère.
Parlons de ses fonctions, parce que là, on a beaucoup évoqué la femme, le rapport qu'elle entretenait avec ses enfants, avec son époux. Est-ce qu'il y avait des chefs, enfin, est-ce qu'il y a des premiers ministres à qui elle a eu affaire, parce qu'on sait qu'elle les recevait chaque semaine.
C'est tous les mardis.
Tous les mardis.
À tous les mardis, voilà, avec
après,
son cahier.
Par téléphone, ouais. Parce qu'elle n'était plus en mesure de les recevoir en personne. Est-ce qu'il y en avait avec qui elle avait un vrai lien, ou alors une vraie inimitié? Il y a des premiers ministres qu'elle a préférés à d'autres?
Probablement, il y a beaucoup de rumeurs à cet égard. On disait à une époque qu'elle ne s'entendait pas du tout avec Margaret Thatcher, parce que deux reines dans la même pièce, ça fait une de trop, en quelque sorte.
Et puis, c'est une partie d'échec.
Voilà, c'est ça, sans roi. Mais en même temps, il y a eu des informations plus récemment pour dire qu'en fait, vers la fin, elle s'entendait assez bien. Et,
sur les questions de femmes et de mères, en fait, qui ont pu les rapprocher dans des épreuves.
Peut-être. Mais si vous voulez, on revient à la position constitutionnelle de la reine, là, parce que la reine n'a pas le droit de dire « vous faites fausse route là ». Je n'aime pas ce que vous faites là au Parlement. Ce projet de loi-là...
Elle est tenue à un droit de réserve.
Un droit de réserve, elle peut encourager, elle peut avertir.
Oui, c'est ça, avertir quand même.
Mais c'est tout. Donc elle peut dire, dans notre royaume, beaucoup de gens souffrent, j'espère que vous en prendrez compte, etc. etc. Mais elle ne peut pas aller
plus loin
que ça.
Elle envoie des messages quand même. Elle envoie des messages.
Des mineurs, et ça a dû être très difficile pour la reine Elisabeth, quand Margaret Thatcher ne voulait pas intervenir et répondre à ce que demandaient les mineurs, qui étaient en grève de la faim, ça a été une période terrible. Et sans doute la reine Elisabeth pouvait-elle... en effet, faire part de sa préoccupation.
Demander un peu d'humanité.
Elle avait fini par se rendre, je crois, dans le Pays de
Galles. Attention, parce que justement, c'est là où la reine est très limitée, et elle le sait. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une grande reine, parce qu'elle a compris comme personne ses fonctions. Et d'ailleurs, le seul doute qu'on ait sur Charles, c'est est-ce qu'il comprend aussi bien qu'elle la fonction qu'il va devoir remplir. Alors ce devoir de réserve, c'est essentiel. C'est essentiel. Et si on revient à ce que Marc disait tout à l'heure sur cette compassion en retenue, tout dans l'activité de la reine, publique et sans doute aussi en privé, c'est la recherche de ce point d'équilibre précis où elle ne va pas trop loin. Donc, dans les relations avec les politiques...
Sa popularité, ce qui a fait sa popularité.
Oui.
Et puis quand même, elle a été la contemporaine d'un certain Sir Winston Churchill.
Qui est en pamoison, le mot n'est pas trop fort, dès qu'il la rencontre la première fois, alors qu'elle est une adolescente. Elle lui fait une impression invraisemblable. Et il prendra énormément de plaisir à voir cette demoiselle croître, et il la considérera non pas comme sa fille, mais comme un personnage qui a véritablement une personnalité d'exception et d'envergure. Il l'accompagnera, je dirais, d'une certaine manière. Bon, après, il faut aussi noter que quand elle devient reine, Churchill est un homme, je dirais, dans les souffrances lui-même. C'est un homme malade, en décrépitude. Et là, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui puisse se tisser ou s'entretenir entre l'un et l'autre. Oui. Mais pour revenir sur ce que disait Jérémy, si on parle de l'après, Charles, vous vous rendez compte que Charles a été dans les coulisses, dans l'ombre de sa maman pendant 50 ans. Et il a pris des habitudes d'homme capable d'appréhender notre société, de dire il nous faudrait vivre autrement, d'entrer dans une considération de l'environnement. C'est presque notre pull rouge français, vous voyez. Et ça, il a créé une ville qui est dans une harmonie totale. Mais il s'est permis de temps en temps de critiquer justement.
Donc il va falloir qu'il change complètement
c'est parce que c'est la différence entre une femme qui très tôt est reine, est confronté à l'histoire dès ses 12 ans, et lui, qui est un homme libre, et bien soudain, il ne pourra plus être libre.
Et bien on verra comment ça se passera, puisque de toute façon, il sera amené à régner, quoi qu'il arrive, dans les prochaines heures. C'est sûr que Charles sera le prochain souverain britannique, à moins d'une abdication, il n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais
c'est peu probable.
En tout cas, on est toujours suspendu à une annonce qui, sans doute, ne serait pas de très bon augure. L'état de santé de la reine qui inquiète au plus haut point, outrement qu'on en reparle juste après cette interruption, et tandis que vous apercevez l'image du château de Balmoral sur l'écran. A tout de suite. Oui. 90 minutes info qui vous emmènera en Angleterre dans quelques instants, en Écosse plus précisément, puisque c'est là que l'état de santé d'Elisabeth II s'est aggravé ces dernières heures. Mais avant cela, le flash signé Adrien Spiteri.
Sur les masques, nous nous sommes trompés. Ce sont les mots d'Olivier Véran à l'occasion de la sortie de son livre « Par-delà les vagues ». Le porte-parole du gouvernement revient sur sa gestion en tant que ministre de la Santé sur la crise de Covid-19. Pour rappel, en mars 2020, les autorités sanitaires avaient jugé inutile l'élargissement du port du masque à l'ensemble de la population avant de le rendre obligatoire quelques semaines plus tard. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en Ukraine. C'est une visite surprise pour évoquer une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins afin de faire face à la Russie. Volodymyr Zelensky a annoncé hier soir que ses soldats avaient repris des localités du nord-est dans la région de Kharkiv. Et puis à l'ouest des États-Unis, le pays est ravagé par les flammes. Alors que les températures dépassent les 45 degrés dans le Nevada ou l'Arizona, plusieurs incendies se sont déclarés. Des conditions extrêmes qui accentuent les risques de coupures de courant.
Merci beaucoup. De retour pour parler de l'état de santé d'Elisabeth II qui s'est aggravé. La BBC a interrompu ses programmes il y a un peu plus d'une heure maintenant. Vous voyez cette image en direct de Buckingham Palace à Londres, alors que la reine, elle, est à Balmoral en Écosse, entourée des siens avec toute sa famille à son chevet. On a parlé de la présence de William et Charles dans un premier temps, et puis Meghan et Harry qui font, eux, le déplacement depuis la Californie. Donc ça met peut-être un petit peu plus de temps, mais eux aussi ont été appelés, ce qui veut dire que l'heure est grave, sans doute très très grave, peut-être même déjà décisive. Hein. Nous verrons si l'histoire a déjà changé ces dernières heures, son cours. 70 ans de règne pour Elisabeth II, ça n'est pas rien. On va en parler avec vous, Jeremy Stubbs. Bonjour, rebonjour. C'est pour ceux qui nous rejoignent, je vous accueille à nouveau. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Et justement, vous êtes l'auteur d'un article qu'on a pu se procurer et qui, voilà... donc vous allez peut-être nous le présenter en deux secondes. Elisabeth II, l'indétrônable. Quelle ironie, hein, effectivement, que vous ayez signé ce
titre.
Oui,
bien sûr, bien sûr. Et à la fin de l'article, j'ai parlé de cette idée des deux corps du roi, c'est-à-dire le corps physique et le corps spirituel. Et que quand elle mourra, j'ai dit à ce moment-là, nous pourrons tous écrier « La reine est morte, vive la reine ». Je ne savais pas que ça allait être si pertinent maintenant.
Et ça, c'est à retrouver dans le numéro actuel.
Qui vient de sortir, hier, donc, article écrit avant l'été.
Donc, il y a des intuitions visionnaire. Comme ça. Qui,
ouais, c'est ça un peu visionnaire. Juste avant de vous donner la parole, Ludovine de la Rochère et Marc Menant, on va retrouver notre correspondante à Londres. Parce que Sarah Menaille, vous nous aviez annoncé tout à l'heure l'interruption des programmes de la BBC, le fait que les présentateurs s'habillaient en noir avec une cravate noire, bon, ce qui est quand même un signe assez fort. Et il y a déjà tout un protocole qui est prévu en cas de décès.
Rebonjour. Alors oui, effectivement, tout un protocole est prévu. C'est l'opération London Bridge en cas de décès de la reine Elisabeth II. Il y a tout un protocole qui est prévu. Son secrétaire personnel doit appeler la première ministre, Liz Truss. Ce serait la première personne informée officiellement du décès de la reine. Et puis ensuite, évidemment, l'agence de presse britannique, hein, Press Association, c'est elle qui devrait transmettre l'information en premier et non pas la BBC. C'est vraiment cette agence de presse qui normalement va annoncer en premier en cas de décès éventuellement de la reine. Et puis ensuite, il y a tout un protocole. On sait qu'elle est donc à Balmoral, vous l'avez dit, dans son château en Écosse. Elle devrait donc y avoir une messe notamment en la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg en cas de décès toujours. Hein. On n'a pas d'informations pour l'instant. On attend des annonces. On est suspendu aux annonces de Buckingham Palace. On se dit que d'ici quelques heures, on devrait avoir effectivement des nouvelles. Mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, la BBC qui interrompt ses programmes, ce n'est évidemment pas anodin. Les présentateurs, l'air grave, et puis les correspondants royaux, surtout parce qu'eux savent. Eux, évidemment, sont au courant des dernières nouvelles de l'état de santé d'Elisabeth II. Sauf qu'il y a tout un protocole à respecter et qu'ils ne peuvent pas dire comme ça à la télévision ce qu'il se passe. Évidemment, il y a le secret médical de la reine, ce secret royal, effectivement, que Buckingham demande de respecter. Mais quand on voit ces correspondants royaux l'air grave et nous dire qu'il faut se préparer au pire, effectivement, ça ne dure rien de bon pour les prochaines heures.
Merci beaucoup, Sarah. Et bien sûr, vous restez en lien avec nous si les choses venaient à s'aggraver ou à se précipiter dans les prochaines minutes. Marc Menant, ce n'est pas de très bon augure, évidemment, tout cela, le fait d'avoir appelé la famille. On rappelle quand même que c'est une femme âgée de 96 ans, même si on a tous ici vécu avec elle.
Nelly,
on a connu qu'elle.
On a l'image de sa mère. Sa mère qui semblait éternelle. Ah ben, 105 ans, je crois. Alors quand
101, je pense.
101, pardon.
Rose, la reine-mère.
La reine-mère, oui. La
Elisabeth.
Reine-mère,
oui. Elisabeth. La reine-mère, oui.
La reine-mère. Et donc, quand on la voyait, à chaque apparition, souvenez-vous, le jour des obsèques du prince Philippe, cet homme qui avait tant compté, c'était une sorte de fusion d'âme. Mmh. Eh bien, elle est là. Elle est droite, elle reste bien plantée sur sur le balcon face au peuple. Et on se dit, mais oui, tel que vous l'avez titré, non seulement elle est indétrônable, mais elle est indestructible. Elle sera centenaire et elle passera donc le cap. Et derrière, dans une période aussi troublée comme la nôtre, il y a une sorte de symbole qui porte les individus. En disant, mais dans le fond... Tout ne peut pas s'effondrer, vous voyez. L'homme, il n'est peut-être pas éternel, mais il peut tenir. Il y a des choses dans les subconscients qui s'agitent comme ça et qui, en quelque sorte, régénèrent les individus. Et c'est sans doute
donc
pour
on
ça...
on est prêt à cette annonce.
Non, et je pense, c'est ce que disait Jérémy tout à l'heure, lorsque l'heure aura sonné, qu'elle sera officielle et qu'on se retrouvera pour la dernière communion, je pense que... nous vivrons des débordements d'émotions. Des instants comme peu se sont déroulés dans l'histoire. Mais même chez nous, vous verrez cela. Et ce qui est intéressant aussi quand vous parler de la mort du corps et la mort de l'esprit. N'oublions pas ce qui se passait sous la royauté française. À une époque, il y avait la tripartite. C'est-à-dire que au moment où le décès était reconnu, les chirurgiens intervenaient, on plaçait le cerveau dans une petite... je ne veux pas dire boîte, mais un petit élément, le cœur ailleurs et le corps. Et ensuite, il y avait une effigie qui était présentée au peuple, le roi dormant, et cette effigie, on lui donnait à manger selon les rituels habituels jusqu'au moment des funérailles.
Ludovine de la Rochère, sur les instants, les heures un peu cruciales que nous sommes en train de vivre, on sent bien que quelque chose se passe et que la fin de soirée ne ressemblera pas à ce milieu d'après-midi.
Tout à fait. Les images que nous avions il y a une heure et demie devant Buckingham Palace, les gens passaient encore. Et là, on voit bien que les gens attendent. Donc, on est vraiment dans le temps de latence pour reprendre le mot que vous avez employé. Ouais. Exactement, là il y a une attente, une angoisse, une inquiétude et clairement une attente. Et alors ça me rappelle le moment où Elisabeth II est devenue la reine. Et alors d'abord il faut rappeler qu'au tout début de sa vie, elle n'était pas du tout appelée à devenir la reine, puisqu'il devait d'abord y avoir celui qui était son oncle,
Édouard VIII,
qui a voulu épouser Wallis Simpson et qui a dû abdiquer. Du coup, mais on pouvait imaginer à la base que le futur Édouard VIII ait des enfants. Et donc, tout cela passait dans une autre, du côté de son oncle. Finalement, son père est devenu le roi, George VI. Et c'est ce qui a conduit Élisabeth, plus tard, à devenir reine. Et donc, ce n'était pas attendu dès les premières années de la vie d'Elisabeth II. Et je pense que Churchill, vous évoquiez le début de la guerre, à ce moment-là, ne pouvait pas l'imaginer. Et par ailleurs, au moment de la mort du roi George VI, on a cherché Elisabeth II partout. Elle était, vous l'aviez dit, en déplacement en Afrique, au Kenya, me semble-t-il.
Oui,
jeune maman.
Oui, oui.
Et elle avait laissé ses enfants et on l'a cherché partout. Et le monde entier était informé de la mort de George VI, mais elle ne le savait pas. Il ne fallait pas qu'elle l'apprenne.
Il me reste quelques secondes juste pour vous dire que on annonce sa mort, son cortège ensuite traversera tout Londres, ira jusqu'à l'abbaye de Westminster où elle avait été d'ailleurs intronisée en 53 sur un char. Vous imaginez donc tout le décorum, tout le protocole et la lourdeur aussi de la cérémonie. Et puis sa dépouille sera exposée 23 heures sur 24 au quatrième jour. Tout cela est très codifié. Les funérailles, elles, interviendront au 9e jour. Donc voilà, tout a été prévu au millimètre près. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais évidemment, nous vous invitons à suivre la suite de nos émissions sur notre antenne avec Laurence Ferrari dans quelques minutes. On s'inquiète toujours évidemment pour l'état de santé réel d'Elisabeth II, puisque les nouvelles sont très inquiétantes depuis le milieu d'après-midi, il faut bien le dire ainsi. C'est surtout ce signal terrible envoyé par la BBC qui interrompt ses programmes qui nous donne quand même...
Et avec un présentateur qui prend
un peu d'inquiétude supplémentaire. Voilà. On suivra évidemment tout cela tout au long de l'après-midi. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné pour cette presque édition spéciale. Ça se poursuit avec Laurence dans quelques instants. Excellente soirée.